France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Le Grand Face-à-Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. Aujourd'hui, un grand face-à-face XXL jusqu'à 14h consacré à l'hôpital public à l'occasion du centenaire de la Fédération Hospitalière de France et à la veille du 17 mars, désormais date de célébration de l'engagement des soignants en souvenir du 17 mars 2020, premier jour du confinement historique lié au Covid. Où en est ce trésor national, pour reprendre l'expression de Gabriel Attal? Faut-il arrêter avec le discours misérabiliste sur l'hôpital, pour reprendre les mots du ministre de la Santé Frédéric Valletoux? Débat à suivre avec nos invités. Mais comme chaque semaine, c'est l'heure du duel avec les duellistes du grand face-à-face, Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès.
Le grand face-à-face XXL, Thomas Negaroff sur France Inter.
Je pourrais vous dire ce soir, parce que ça n'est pas populaire. Vous savez, c'est loin. Nous, on est pour la paix. On est pour la paix. Les gens qui disent ça aujourd'hui, les mêmes qui ne veulent pas d'ailleurs soutenir l'Ukraine, ils ne font pas le choix de la paix. Ils font le choix de la défaite. Ils font le choix de l'abandon de souveraineté.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
Emmanuel Macron, et on revient semaine après semaine sur cette question de l'Ukraine, c'était jeudi soir sur TF1. Et France 2 dans le journal de 20h, Natacha, cet argument-là de dire l'Ukraine c'est notre histoire et considérer qu'il ne faut pas soutenir l'Ukraine, c'est être non pas partisan de la paix mais de la défaite. Comment est-ce que vous l'entendez ?
Alors, il y a deux choses différentes dans ce que vous venez de dire. Il y a la dimension très concrète de l'état du front et de l'état de l'armée ukrainienne. Et donc, nous sommes bien d'accord que les rapports qui remontent du terrain disent à quel point l'armée ukrainienne est peut-être sur le point de craquer. Mmh. Auquel cas, il faut évidemment empêcher cela de toutes les manières possibles, c'est-à-dire en donnant à l'Ukraine les moyens de rétablir le rapport de force en vue d'autre chose. Et c'est là que ça devient extrêmement important. En revanche, quand vous dites l'Ukraine, c'est notre histoire, etc., là, il y a...
C'est pas moi qui le dis.
Oui, mais j'allais dire, c'est le début de l'allocution d'Emmanuel Macron qui est dans un, on va dire, un récit qui est celui de l'Occident depuis que ce conflit a commencé et qui lit les choses de manière éminemment manichéenne, ce qui permet de, j'allais dire, de galvaniser les foules, c'est visiblement le but, mais qui ne permet pas d'avoir une lecture raisonnable et lucide des choses. Quand j'ai entendu Emmanuel Macron, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont il a répété plusieurs fois, inlassablement, si il y a une guerre, Vladimir Poutine sera le seul responsable. Vladimir Poutine est le seul responsable de l'invasion de l'Ukraine et de la guerre en tant que telle. Oui. Mais là, avoir le président d'une puissance nucléaire qui répète cela plusieurs fois, comme pour dire « attention, ça va arriver », c'est quelque chose d'assez irresponsable, en fait. Parce que c'est une escalade verbale et que, en la matière, les escalades verbales sont dangereuses. Et que ce que je lis dans l'attitude d'Emmanuel Macron, c'est cette idée, encore une fois, de la volonté d'établir un rapport de force. Or, le rapport de force, c'est concrètement qu'il faut l'établir. C'est sur le terrain. En revanche, je pense que le rapport de force purement verbal et lyrique est au contraire un aveu de faiblesse et un manque de maîtrise dont les conséquences peuvent être très graves. Et concrètement, il n'y a pas grand-chose pour aider l'Ukraine. Concrètement, il n'y a strictement rien pour placer les États-Unis devant leur responsabilité historique parce qu'ils en ont une et qu'en revanche, ils sont en train de se retirer tranquillement alors même que la situation devient tragique et que je pense que ce n'est certainement pas le moment, on va dire, de jouer à la guerre.
Gilles, Natacha évoquait la question de l'irresponsabilité de l'escalade verbale présidentielle. Qui est irresponsable dans cette histoire ?
Bon,
depuis le début, ça, je crois que c'est Vladimir Poutine. Vous dites, Emmanuel Macron revient semaine après semaine. On a quand même eu une semaine un peu différente oui. des semaines précédentes. Au sens où il a reçu l'ensemble des chefs de parti, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, et là, pour la première fois sur ce sujet-là, il s'est exprimé devant les Français. Donc cette semaine n'est pas exactement...
C'est vrai, on est sorti des déclarations qu'on reprenait plus ou moins bien d'ailleurs dans les médias.
Exactement. Je voudrais revenir d'un mot sur le débat à l'Assemblée avant d'aller sur Emmanuel Macron. À l'Assemblée nationale, d'abord, pour dire une déception sur l'affluence. C'est une question majeure, à un moment majeur, Natacha l'a dit. Ce débat a été demandé, il a été réclamé par les parlementaires. Les députés se plaignent à raison que les questions internationales fassent partie à l'excès du domaine réservé du président de la République. Ils se plaignent en ce moment que l'agenda parlementaire soit insuffisamment fourni. Et il y avait au maximum 150 députés
oui, je suis d'accord.
dans l'hémicycle.
C'était choquant.
Et précisément parce que je suis pour un Parlement fort, je pense que c'est vraiment inacceptable, d'autant plus qu'ils n'ont même plus le prétexte du cumul des mandats pour dire qu'ils devaient être dans leur circonscription. Et donc, je ne vois pas ce que 400 députés qui étaient absents avaient de mieux à faire que d'être dans l'hémicycle ce moment-là. Deuxièmement, sur le débat lui-même, sur les positions, chacun a fait de la politique et les votes ont, sans surprise, permis de clarifier à la fois l'ambiguïté de l'extrême droite et son abstention, le fossé entre les gauches, entre d'un côté la France Insoumise et le Parti Communiste, de l'autre côté Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, et le fait que, en gros, d'Europe Écologie Les Verts jusqu'aux Républicains, il y a des nuances importantes, mais il n'y a pas une frontière infranchissable.
Oui. Est-ce que c'est, vous avez dit, chacun fait de la politique. Est-ce que c'est choquant que chacun fasse de la politique dans un contexte pareil?
Non, non, je...
Non, mais moi, si on dit que la crise est existentielle, que de faire de la politique, j'entends politique politicienne?
Oui, chacun, ça n'a échappé à personne, il y a des élections européennes dans peu de temps, et je dirais Emmanuel Macron lui-même, on l'a dit, il y a à la fois la grande politique et la petite politique, et les choses sont toujours mêlées.
Alors le président.
Sur le président, je pense qu'on pouvait attendre d'une émission comme ça. En fait, j'ai essayé, avant l'émission, de me dire qu'est-ce que moi j'attends d'une telle émission. Ce que l'on pouvait espérer, c'est une clarification. Une clarification sur l'analyse de la situation, sur la livraison effective des armes, sur le possible envoi des troupes, des forces françaises, puisque c'est ça qui a un peu changé la donne, et sur ce qu'étaient nos intérêts vitaux. D'une certaine manière, il n'a absolument rien dit de nouveau. Mais il l'a dit devant les Français. Et donc, ça, je pense que c'est plutôt utile de le dire directement devant les Français. Donc, les positions ont été exprimées. Est-ce qu'elles ont été clarifiées? Ce qui pouvait l'être l'a été. Et puis, il y a ce qui ne pouvait pas l'être. L'ambiguïté, par définition, dès lors qu'on veut maintenir l'ambiguïté, eh ben on ne peut pas la clarifier.
L'ambiguïté dite stratégique.
L'ambiguïté
ouais,
dite stratégique.
Pardon,
et celui qui l'a clarifié d'une certaine manière, c'est Volodymyr Zelensky, la même semaine, qui dit « Tant que l'Ukraine tient, nous n'avons pas besoin des troupes occidentales en Ukraine. » Ce qui renvoie à ce que disait Natacha. L'essentiel, encore une fois, c'est le concret et c'est le front.
Un mot, pourquoi ça vous agace, ambiguïté stratégique? Ça fait vraiment partie de la boîte à outils de tout diplomate, de tout dirigeant politique, de ne pas dévoiler absolument ses cartes.
Oui, et c'est donc un concept stratégique de fond. Et c'est devenu un élément de langage repris jusqu'à saturation par les journalistes qui ne connaissaient pas le terme il y a 3 mois, mais qui maintenant n'ont plus que celui-là à la bouche. Pardon, je m'énerve un peu, mais parce que sur un sujet aussi grave, vraiment, le traitement journalistique m'est insupportable, mais insupportable. Entre la facilité de communication, l'espèce de chantage qui interdit tout débat sur le thème « vous êtes pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre Poutine », qui détruit toute possibilité de débat alors même que ce débat est absolument essentiel et qu'on ne rentre jamais dans les questions concrètes. La France a déjà des hommes en Ukraine, comme beaucoup d'autres pays européens. La question est de savoir lesquels on envoie maintenant, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'on envoie des démineurs? Est-ce que si Vladimir Poutine décide de cartonner des démineurs dans lesquels il y a des Français, c'est-à-dire des soldats d'une puissance nucléaire, nous répondons de quelle manière? Ce sont des sujets gravissimes et concrets. Il ne s'agit pas de venir pérorer ou expliquer qu'on va chasser les supposés agents de Poutine.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
On a eu l'accord hier sur les travailleurs des plateformes dont on se satisfait, qui est le produit d'une bataille de longue date de ma collègue Leïla Cheibi. Enfin, des millions de travailleurs, les forçats de la route, comme on pourrait les appeler, qui viennent livrer de la nourriture, qui sont à la merci de grandes entreprises multinationales comme Uber. Enfin, ils vont avoir une protection sociale. Enfin, quand ils auront un accident du travail, ils pourront être protégés. Et cet accord, il s'est fait contre la France, et c'est bien la preuve qu'en menant des batailles, parfois le lobby citoyen peut l'emporter contre le lobby des multinationales relayé par certains États.
Je vous ai vu pas mal réagir, Gilles. C'était Manon Aubry, députée européenne de la France insoumise, qui revenait sur cet accord politique européen trouvé cette semaine pour les 28 millions de travailleurs qui opèrent sur les plateformes en tant qu'auto-entrepreneurs. Le lobby citoyen contre le lobby du capitalisme et des plateformes. Est-ce que c'est une grande victoire démocratique cette semaine?
Alors, c'est un sujet qui est à la fois très neuf, puisqu'il est lié au développement des plateformes numériques, les VTC ou les repas à domicile notamment, c'est-à-dire d'un secteur qui est peu régulé et dans lequel on a vu une explosion du nombre de travailleurs qui recouraient au statut d'indépendant.
Oui.
C'est un sujet très neuf, déjà ancien quand même, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a en France, en Europe, un combat politique, syndical, juridique, et donc c'est pas le lobby citoyen. Ça va, c'est... Enfin, Il y a eu une jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, ça c'est le sujet. Quel est l'enjeu si on essaye de l'expliquer en termes extrêmement simples? Est-ce que ce travail indépendant est du travail salarié dissimulé? Et donc, est-ce que ces travailleurs peuvent être requalifiés en salariés avec les droits sociaux qui vont avec le statut de salarié?
Est-ce que le livreur Uber en vélo n'est pas en vrai un salarié d'Uber?
Voilà. Et donc, en termes juridiques, ça veut dire, est-ce qu'il y a un lien de subordination entre le chauffeur d'Uber et Uber?
Et des droits qui vont avec?
Et ça va être ça, en termes juridiques, ce sur quoi a porté le débat depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a une présomption de salariat? Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Un accord européen a été trouvé cette semaine grâce au ralliement de pays comme la Grèce et l'Estonie, malgré, je vais y revenir, l'abstention de l'Allemagne et l'opposition de la France. Cet accord crée une obligation pour les États de créer une présomption légale de salariat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est une transposition qui doit être faite dans chaque État, mais c'est une directive européenne qui va imposer ça. Donc, on renverse la charge de la preuve. Ça veut dire que c'est pas le chauffeur d'Uber qui devra prouver qu'il est salarié, c'est Uber qui devra prouver que son chauffeur est indépendant. Donc, c'est, je crois, vraiment un progrès. C'est à la fois positif parce que on va dans la bonne direction dans l'Europe sociale, et au bon moment, parce qu'on est à la fin de la commission, et que si ça ne se faisait pas là, on repartait pour des années. Quelles leçons, je termine par là, peut-on en tirer? D'abord, comme souvent, les progrès viennent des institutions qui sont les plus décriées. Le Parlement européen et la commission, et ce sont les États qui ont été un peu en revers de la main. Deuxièmement, une nouvelle fois, comme on l'avait vu la semaine dernière pour le devoir de vigilance, c'est la France et l'Allemagne qui ont été des freins. Pendant des décennies, quand c'est la France et l'Allemagne qui faisaient avancer et qui entraînaient le reste. Là, c'est eux qui bloquent, mais ils n'ont pas réussi, cette fois-ci, à bloquer, puisque le projet va aboutir. Et puis, je termine par un dernier élément, c'est que le combat n'est pas terminé. Parce que cette directive va être votée là dans les prochains jours, mais elle doit maintenant, dans les 2 ans, être transposée en droit national. Or, cette directive laisse une grande liberté dans la fixation des critères. Et donc, le combat n'est pas terminé, et l'opposition de la France que l'on a vue depuis le début, on va voir si elle continue de s'exprimer dans la transposition.
Et comment on l'explique? Pourquoi la France s'y oppose? C'est quoi l'argument?
Alors, l'argument, il y a plusieurs arguments. Il y a un argument qui tient, c'est bon pour l'emploi, et donc on ne fait rien qui puisse entraver le développement de l'emploi. Il y avait cette idée qu'Emmanuel Macron a portée depuis le début, y compris quand il était ministre de l'économie de François Hollande, du développement de des plateformes comme Progrès Social, y compris comme mode d'insertion dans l'emploi. Donc, je crois que c'est ça qui principalement explique cette position.
Oui. Natacha.
Gilles a fait un excellent panorama de ce qui s'est passé en termes de débat et de voilà. Donc, je vais plutôt poursuivre la réflexion sur ce qu'il vient d'esquisser. On se souvient qu'Emmanuel Macron a été décrié pour ses rendez-vous avec le patron d'Uber et qu'il y a une complaisance d'Emmanuel Macron depuis le début vis-à-vis de ces plateformes. Alors, en effet, c'est sans doute une question idéologique. C'est cette espèce de conviction qu'on retrouvait au cœur de la commission Attali, et pour en avoir discuté avec Jacques Attali, j'étais frappée d'ailleurs par cela, cette espèce de fantasme sur l'auto-entrepreneuriat qui était tellement plus épanouissant que le salariat. Voilà, le salariat, c'était les usines, c'était atroce, alors que l'auto-entrepreneuriat, c'était la liberté individuelle. C'est en fait un esclavage moderne, et on ne le dit pas, et les individus qui aujourd'hui prennent l'habitude de se faire livrer des repas refusent de voir qu'ils utilisent des esclaves. Voilà. C'est une nouvelle forme d'esclavage et c'est aussi une façon d'appauvrir encore un peu plus l'État. Et cette directive est un progrès, mais il faut bien voir que très souvent, les employés de ces plateformes en fait réclament une requalification, souvent à la fin, quand ils cessent de travailler avec ces plateformes, pour obtenir un peu d'argent. Et donc, c'est une façon de les protéger, en effet, dans leurs droits salariaux. Ça ne règle pas la question qui est celle de la façon dont ces plateformes sont une mécanique pour échapper à l'impôt et aux charges sociales qui permettent à l'État d'avoir les finances suffisantes pour ensuite payer des hôpitaux, et nous allons en parler tout à l'heure, des écoles, etc. C'est-à-dire que c'est une mécanique éminemment perverse. Et le problème que nous avons, c'est que nous sommes condamnés à venir régler après coup les conséquences les plus ignobles de ce genre de mécanique. Et là, en l'occurrence, en effet, ça va améliorer très certainement les conditions de beaucoup de travailleurs. Mais ça ne permettra pas de revenir sur tout ce processus de dérégulation qui fait que les États aujourd'hui sont appauvris et n'ont plus les moyens de payer les services publics, de jouer leur rôle. La France en particulier est dans une situation tragique, notamment à cause de ça, mais je le répète, Emmanuel Macron a toujours trouvé cela formidable, comme beaucoup d'autres qui ont considéré que la dérégulation allait nous permettre de nous enrichir et de faire ruisseler la richesse. J'ai un doute.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
La présente écriture constitutionnelle prévoit donc la reconnaissance d'un statut d'autonomie pour la Corse au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à sa communauté historique, linguistique, culturelle, et ayant développé un lien singulier à sa terre.
Allez, troisième sujet du duel du jour. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'était mercredi. Après plus d'un an de négociations, Gilles, un accord a été trouvé en Corse avec un texte qui prévoit un statut d'autonomie de l'île au sein de la République. Bien sûr, l'État conservera ses domaines régaliens, police, armée, justice, mais la collectivité de Corse pourra adapter les lois et les règlements existants aux spécificités de l'île, mais aussi, et là c'est un petit peu plus inquiétant pour certains, voter des lois dans des domaines qui restent à définir. Gilles, est-ce que cette semaine la République est renforcée ou affaiblie ?
Je pense que c'est un bon compromis pour la Corse et que c'est un bon compromis pour la République. On est dans la continuité et la cohérence du discours d'Emmanuel Macron de septembre dernier. On est très très proche de ce discours-là. Le discours qui lui-même marquait une inflexion très forte des positions d'Emmanuel Macron précédemment. Ça a été mis en musique, je crois plutôt bien, par Gérald Darmanin. Pourquoi je dis que c'est un bon compromis, au-delà du fait, si je suis complet, que ce compromis est extrêmement proche du rapport que la Fondation Jean Jaurès a publié au début de l'année d'Yves Colmou et de Laurent Cohen, qui reprend, qui est vraiment très très proche de ce qui a été trouvé. Pour deux raisons. D'abord, je crois qu'il est équilibré équilibré dans son contenu si on regarde attentivement ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Sur le plan symbolique, il y a une mention spécifique de la Corse dans la Constitution, c'est ce qui était demandé, comme il y en a une pour la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie, il n'y a pas de reconnaissance du peuple corse. Sur le plan concret, il y a un engagement au développement de la langue corse, il n'y a pas de reconnaissance de la co-officialité, c'est-à-dire du fait que les fonctionnaires doivent obligatoirement pouvoir répondre en Corse. Il y a une possibilité d'adaptation réglementaire ou législative à la fois par le haut, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale, par le Parlement français, et par le bas, c'est-à-dire par la Corse, mais qui est limitée à certains domaines, et même dans ces domaines-là, qui est évidemment soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Et, pour terminer, il n'y a pas de statut de résident qui serait contraire à l'égalité entre les citoyens français. Donc, je trouve que sur le contenu, c'est équilibré. Et puis, la deuxième raison, et je crois que c'est très important d'avoir ça en tête, c'est que ce compromis est très large dans ses soutiens en Corse. Les oppositions principales, c'est celle des nationalistes, Jean-Guy Talamoni, et d'une partie des Républicains. Pour le reste, depuis des années, de manière constante, de manière réitérée, il y a une majorité de la population qui soutient l'autonomie. Et il y a un large spectre politique, au-delà du président de l'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni, et notamment, ça va être important pour la suite, de l'ancien maire d'Ajaccio, qui est le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, Laurent Marcangeli. Bon, donc, je trouve qu'on est arrivé à un bon compromis. Je peux avoir des critiques, je sais pas, on la formule sur la communauté, avec l'ambiguïté du mot communauté, me semble pas la plus opportune. Mais ce que je trouve positif pour terminer, c'est que c'est de traiter cette question-là à froid, alors qu'elle est beaucoup trop souvent à chaud. Et au fond, il y a un alignement sur d'autres territoires insulaires. En France, je l'ai dit, la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie. En Europe, c'est très proche de ce qui se passe en Sardaigne, en Italie, ou des Açores au Portugal, qui pourtant est un État très unitaire.
Si je résume, ceux qui considèrent que ça ne va pas assez loin et ceux qui considèrent que ça va trop loin sont aujourd'hui minoritaires en Corse. Natacha, est-ce qu'on a ouvert la boîte de Pandore? Est-ce que, c'est ce que certains disent, hein, en ouvrant ça, désormais il y a d'autres provinces, d'autres régions françaises qui vont à dire si les Corses l'ont obtenu, peut-être qu'on n'est pas une île, mais on a une spécificité historique équivalente.
Alors, j'ai sur ce sujet des débats sans fin avec les gens avec lesquels je suis plutôt proche idéologiquement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gauche républicaine, ceux qui sont attachés à la souveraineté populaire et à la souveraineté nationale, enfin, et qui sont en général très jacobins. Je suis un cas rare de...
Donc très opposé à un statut d'autonomie corse.
Voilà, je suis dans ce cas-là, mais girondine, pour ma part. Et donc, je pense qu'il y a, moi, il y a un élément, en effet, qui m'a chiffonné, et ça rejoint, c'est intéressant, ça rejoint exactement ce que disait Gilles, les spécificités de la communauté insulaire, puisque en République, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est un principe de garantie de la liberté des individus. Mais au-delà de ça, qu'on considère qu'il y a une spécificité territoriale et historique, je trouve ça, au contraire, parfaitement sain. C'est-à-dire que je pense que j'entends ce que disent justement donc les Jacobins qui considèrent qu'on est en train de revenir avant 1789 et le fameux en France on change plus souvent de loi que de cheval. Sauf que ce n'est pas de cela qu'on parle. La décentralisation est très certainement une des politiques qui a le plus échoué, qui a les moins été suivie depuis les quatre dernières décennies. Or, je pense que la République n'est pas en train d'être fragilisée par la décentralisation et la reconnaissance des spécificités des territoires. Moi, j'ai une vision de la nation qui est celle d'Ernest Renan, et c'est l'unité, et celle de Brodel, c'est l'unité dans la diversité. Et la reconnaissance de la diversité est une façon de sortir de cette espèce d'abstraction mortifère qui, aujourd'hui, éloigne les citoyens de la République et dans un contexte d'uniformisation mondiale et de globalisation culturelle, je pense au contraire que la République doit s'appuyer sur les spécificités et rapprocher la démocratie des individus. Tous les élus locaux réclament cela. Quand ils sont, par exemple, sénateurs, ils le réclament en permanence. Et là, on les entend hurler quand enfin c'est légèrement pris en compte. C'est un peu dommage.
Gilles, vous vouliez ajouter un mot ?
Oui, sur le mot d'unité, la belle formule unité et diversité, contrairement à ce que l'on dit souvent, on dit la France république une et indivisible, le une n'est plus dans la Constitution. La France est une république indivisible, mais elle n'est plus une. Ça veut dire, et d'ailleurs, on a même ajouté dans une révision constitutionnelle, lorsque Jacques Chirac était président de la République, son organisation est décentralisée. C'est dans le même Exactement. Article premier. Et donc, voilà, faut pas avoir une vision trop datée de la Constitution. J'ajoute que la Corse a un statut spécifique depuis maintenant 1982, qui a été revu et accentué, dont les spécificités ont été accentuées à plusieurs reprises. Et je termine en disant que je crois que l'avenir est beaucoup à la différenciation des territoires, dès lors qu'on garde évidemment une unité. On le voit de plus en plus à Lyon. On voit il y a une spécificité des relations entre la métropole et le département. En Alsace, il y a eu des fusions de départements. Je crois que le problème, c'est pas qu'il y ait plus de différenciation. Le problème, c'est quand il y a moins de communs. Et c'est ça aussi l'enjeu pour la République.
Allez, c'est l'heure du débat du grand face-à-face.
France Inter, le grand face-à-face XXL, le débat.
Il va falloir arrêter avec le discours misérabilisme sur l'hôpital. L'hôpital a des difficultés structurelles, mais il va falloir arrêter avec le discours misérabiliste sur l'hôpital.
C'était Frédéric Valletoux, ministre de la Santé, le 5 mars dernier à l'Assemblée nationale. Dans quel état est l'hôpital public en France? À l'occasion du centenaire de la Fédération hospitalière de France, qui représente les 1000 hôpitaux publics et les 3800 établissements médico-sociaux publics du pays, et à la veille du 17 mars, désormais date de célébration de l'engagement des soignants, en souvenir du 17 mars 2020, premier jour du confinement historique lié au Covid, nous avons voulu nous poser cette question. L'hôpital est-il un grand corps malade? Et pour y répondre, parler de l'institution, des soignants et aussi bien sûr des patients, quatre invités vont confronter leur regard. Bonjour Zainab Briet.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de la, justement, Fédération hospitalière de France depuis 2018. On peut dire que vous avez tout connu à l'hôpital public puisque vous avez été infirmière et directrice d'hôpital. Un de vos confrères est à vos côtés. Bonjour Nicolas Revel.
Bonjour.
Ancien directeur de l'assurance maladie, directeur de cabinet de Jean Castex à Matignon, tiens, pendant la crise du Covid, ça devait être facile. Depuis près de 2 ans, vous êtes à la tête du plus grand CHU d'Europe, l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Pour vous, l'hôpital public va très mal. Bonjour Caroline Brémaud.
Bonjour.
Urgentiste à Laval, ancienne chef de service des urgences de l'hôpital de Laval jusqu'au 1er décembre 2023. Je dis ancienne parce qu'après avoir alerté sur le manque de moyens criants de l'hôpital en 2021, vous avez été démise de vos fonctions. L'hôpital, vous y avez fait entrer la philosophie. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Professeur titulaire de la chaire de philosophie du GHU Paris psychiatrique et neurosciences. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Humanité et Santé, auteur, on vous avait reçu au début de la saison, du grand face-à-face de la clinique de la dignité au Seuil, et justement fondatrice de la première chaire de philosophie à l'hôpital. Pour vous, ce qui se joue à l'hôpital détermine largement l'état de notre société, peut-être même de notre civilité. Allez, je vous propose à tous de commenter en écoutant le Premier ministre Gabriel Attal. Écoutez bien les mots qu'il emploie pour qualifier l'hôpital public. C'était à Dijon le 13 janvier dernier.
Notre hôpital et nos soignants, c'est un trésor national.
Allez, je m'arrête sur ce mot. L'hôpital public et ses soignants, un trésor national. Ça veut dire quoi? Trésor national en guise de présentation. Peut-être, Caroline Brémaud, votre rapport à l'hôpital, c'est quoi, à vous?
Moi, je suis très attachée à l'hôpital, très attachée au service public. C'est une évidence pour moi. Je ne me verrais pas travailler ailleurs. Je ne me verrais pas faire autre chose. Je suis entièrement dévouée à mes patients. C'est ma seule préoccupation, c'est le bien-être des patients, le bien-être aussi des personnes qui travaillent à mes côtés. Et je suis d'accord que l'hôpital public est un trésor national, mais les décisions qui sont prises actuellement ne sont pas en accord avec ce terme. On ne traite pas un trésor de cette façon.
Nicolas Revel, votre rapport, vous, personnel, à l'hôpital public. Je rappelle que vous dirigez la PHP aujourd'hui.
Comme tout le monde, évidemment, j'ai été patient, j'ai accompagné des membres de ma famille dans des moments de vie compliqués. Mais le trésor national, pour moi, il est évidemment l'hôpital, j'y reviendrai. C'est aussi notre système de sécurité sociale. J'ai dirigé l'assurance maladie, je pense que ça forme un tout. Et au sein de ce système de santé précieux, oui, je crois en effet que l'hôpital occupe une place à part. Voilà, parce que c'est là où on soigne toutes les maladies les plus graves, avec un système d'accès aux soins qui reste quand même fondamentalement fort. On a des soins gratuits, c'est ouvert 7 jours sur 7. Et par ailleurs, l'hôpital, il faut jamais le perdre de vue. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de diriger l'APHP, qui est un CHU, et qui est porteur aussi d'une dimension forte, qui est le progrès médical. C'est que c'est quand même à l'hôpital que se construit la recherche médicale et le progrès médical.
Quand vous dites gratuité 7 jours sur 7, c'est vrai que quand on voyage, quand on a la chance de voyager à l'étranger, et qu'on a la malchance de tomber malade, on se rend compte de l'hôpital public français, de ce qu'il peut apporter. Zaina Briet, pareil, je vous pose la même question, parce que j'ai dit en présentation que vous avez été infirmière au début de votre carrière, vous êtes arrivée jusqu'à passer tous les concours en interne pour être jusqu'à directrice d'hôpital. Ça dit quoi de votre attachement à cette institution?
Ça dit beaucoup de choses. Ça dit d'abord que l'hôpital public, j'y suis profondément attachée, d'une part parce que j'y ai vécu plusieurs périodes. J'ai vécu l'arrivée du sida, et puis en tant qu'infirmière, et puis en tant que directrice d'hôpital, j'y ai vécu des crises, à la fois des crises de grande ampleur, malheureusement aussi les attentats, la mise en place des plans blancs, je crois que maintenant tout le monde connaît les plans blancs, et j'ai vécu aussi la crise sanitaire. Mais avant tout, moi, ce que je voudrais dire de l'hôpital public, c'est que c'est un modèle unique au monde. C'est un modèle unique et nous avons la chance d'avoir ce modèle et nous pouvons en être fiers, et moi je suis extrêmement fière d'avoir exercé à l'hôpital, de défendre l'hôpital public, de promouvoir l'hôpital public, mais de promouvoir un hôpital public de qualité, sécurisé et qui a les moyens d'assurer ses fonctions. Et puis enfin, je voudrais juste dire que l'hôpital public, c'est notre patrimoine à tous et c'est là où se réalise une certaine prouesse républicaine et j'y reviendrai.
On va évidemment y revenir ensemble, c'est important cette dimension politique. Juste un mot, vous dites c'est unique au monde. Pourquoi c'est unique au monde? Qu'est-ce qu'il y a d'unique au monde à l'hôpital public français?
Dans ce modèle de fonctionnement, il vise uniquement l'intérêt général et comme l'a dit Nicolas Revel tout à l'heure, depuis 1958, les centres hospitaliers universitaires, par exemple, assurent une triple mission sans aucun autre intérêt que l'intérêt général, c'est-à-dire de mieux soigner, de mieux former et de rechercher.
Cynthia Fleury, même question, vous n'êtes pas soignante, vous êtes parfois patiente de l'hôpital, le moins possible j'espère pour vous et vos proches, mais vous y enseignez, vous y avez apporté la philosophie. Pourquoi c'est important l'hôpital public dans votre vie, même votre vie intellectuelle?
Bah écoutez, je vais faire pareil de réponse, une réponse personnelle, puisque vous avez évoqué la chaire de philosophie. Quand j'ai pensé créer la chaire de philosophie à l'hôpital, ça venait directement quand même d'une expérience en tant que premier aidant d'une personne de ma famille qui vivait un moment entre la vie et la mort. Et donc là, à Garches, en l'occurrence, je me suis dit, tiens, si un jour je fais une chaire de philosophie, je la ferai pas à l'université, je la ferai à l'hôpital. Ça, c'est le premier point. Donc, ça part de loin, 93. Et puis, il y a deux grandes institutions. Enfin, il y en a plein d'autres, si vous voulez. Mais en gros, l'école et l'hôpital. Et moi, je les divise pas, si vous voulez. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un couple que Ricoeur a bien identifié qui s'appelle l'autonomie et la vulnérabilité. Et je dirais que, d'un côté, il y a une grande fabrique de l'autonomie qui s'appelle l'école. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi, comment, en fait, on prend en considération que c'est de la résilience, vous prenez un autre mot, c'est du soutien des vulnérabilités, qu'on fabrique cette autonomie. Et on a un modèle extraordinaire qui s'appelle effectivement le CHU, c'est-à-dire hospitalo-universitaire. Moi, la chaire de philosophie, c'est un lieu de formation, de recherche, d'expérimentation. J'espère qu'ils soignent aussi les patients, parce qu'on a des protocoles dirigés pour eux, mais aussi les soignants.
Alors justement, on va un peu découper ce grand face-à-face XXL. On va parler évidemment des patients. Les gens qui nous écoutent sont éminemment concernés en tant que clients, patients de l'hôpital. Le terme d'ailleurs client, j'utilise à dessein parce qu'il y a peut-être une dimension importante à prendre en compte ici. Mais on va commencer par les soignants. Souvenez-vous, c'était il y a 4 ans. On est sur nos balcons quand on est mis dans un appartement, devant nos maisons, et on tape sur des casseroles. On applaudit chaque soir à 20h les fameux soignants pendant la crise du Covid. 4 ans après, ça fait déjà 4 ans, après tout ça, ces applaudissements, ces cris de joie, notre signe de gratitude pour les soignants, est-ce que les choses ont vraiment changé? Caroline Brémaud, je me tourne vers vous.
Alors,
Et d'abord, comment est-ce que vous réentendez ça aujourd'hui?
Alors,
Je l'entends avec un peu d'émotion quand même, parce que je l'ai peu entendu pendant la crise Covid, parce que j'étais directeur médical de crise adjoint et je rentrais chez moi tous les jours entre 22h30 et minuit. Mes enfants se levaient la nuit pour m'embrasser parce qu'ils ne me voyaient plus, je travaillais 6 jours sur 7. Donc je les ai quasiment jamais entendus en fait.
Mais ils étaient pour vous.
Mais ils étaient pour moi, donc là j'en ai profité. Et ça fait des frissons et... Et aujourd'hui, ça a évolué, mais pas dans le bon sens, en fait. Il y a eu une perte de sens. On y a cru, on a cru à un changement, à une prise de conscience. Parce qu'en 2019, nous, les urgentistes, on était déjà en grève pour dénoncer des conditions de travail qui n'étaient pas acceptables. Et puis, il y a eu la crise sanitaire et on s'est tous investis. On a emmené nos équipes avec nous. On a eu peur. On a eu peur pour nos patients. On a eu peur pour nous-mêmes. On a eu peur pour nos familles. On avait quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai dit à mes enfants, on est en train d'écrire une page d'histoire. Vous apprendrez ça à l'école. C'est quelque chose qu'on retrouvera peut-être jamais. Donc, on le vit. Maman n'est pas là pendant quelques semaines, mais je le fais pour vous. Et donc, on s'est dit, bah, il va y avoir une prise de conscience. L'État va se rendre compte qu'on ne peut pas vivre sans un système de santé solide, que tout comme l'éducation, le soin, c'est important. Et il y a eu énormément de déceptions et donc des départs de soignants par perte de sens.
On va y revenir. Nicolas Revel, vous étiez aux affaires, au plus près du Premier ministre Jean Castex à ce moment-là. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une prise de conscience du mal-être des soignants à ce moment-là précisément ?
La réponse est oui. Je le dis en toute sincérité. D'abord parce qu'on avait parfaitement perçu. Moi, j'étais pas Jean Castex. Ça arrive en juillet 2020. C'est la fin de la première vague. Mais dans mes fonctions précédentes, à la tête de l'assurance maladie, on voyait bien dans les années précédentes à quel point les choses étaient devenues très difficiles à l'hôpital public, de manière très spécifique à l'hôpital public. Alors lié à des politiques de maîtrise de la dépense de santé dont on reviendra, et qui fait qu'on a demandé pendant, 15 à 20 ans des efforts de productivité à l'hôpital, qui fait que les choses sont devenues beaucoup plus difficiles pour les équipes médicales, paramédicales, tout ça est évident. Voilà. Arrive le Covid, et vous en avez parfaitement parlé, qui a été un moment très particulier, parce que à la fois c'était extrêmement difficile, dur, et ça a été en réalité pour les soignants, un moment extrêmement fort, parce qu'ils ont eu le sentiment d'être au cœur de leur vocation, de pouvoir à un moment donné faire des choses qui n'étaient pas possibles avec une solidarité incroyable. Et après, moi je ne dirais pas qu'en fait les pouvoirs publics ont lâché l'hôpital et n'ont pas fait. Il y a eu des crédits qui ont été décidés, mis en place à la fois sur les revalorisations salariales et sur l'investissement à l'hôpital, comme il n'y en avait pas eu depuis, je sais pas, des décennies. Ça, c'est factuel. Mais dans le même temps, il y a eu, on le voit, on l'a vu à la PHP, il y a eu des départs extrêmement nombreux. C'est qu'il y a eu un effet de fatigue, de saturation, d'envie d'ailleurs, de changer de métier, de partir en province, de changer de mode d'exercice. De sorte que, oui, depuis 3 ans, la situation à l'hôpital, elle s'est dégradée. Moi, je prends la PHP, c'est très simple.
Ce que vous dites est vertigineux, pardon.
On a perdu 12% de nos infirmières. 12% de nos infirmières. On a fermé 10% de nos lits sur les 3 dernières années. Parce qu'il y a eu ce phénomène de départ incroyable. Bon, là, on est en train, on y reviendra peut-être, de remonter la pente, et on s'en donne les moyens. Mais du coup, objectivement, oui, la situation globalement à l'hôpital s'est dégradée depuis 3 ans.
Natacha.
Je pense que vous venez d'esquisser un tableau historique et la date de 1958 a été évoquée juste avant, parce qu'en effet 1958 c'est une fondation, c'est ça qui est très intéressant, c'est pas seulement une nouvelle constitution, c'est une refondation des piliers, l'université, l'hôpital. Mais historiquement, pour ma part, quand j'ai commencé dans le journalisme en 2002, j'ai d'abord fait un premier papier sur l'école, c'était ma spécialité, et à Marianne on m'a demandé, fais-nous 10 mesures pour sauver l'hôpital public. J'ai passé un mois et demi à interroger absolument tous les acteurs de l'hôpital public. Et les problématiques qui ressortaient, c'était l'inflation administrative qui était en train de grignoter, d'étouffer. C'était l'absurdité à l'époque du budget global qui coûtait cher, qui obligeait à faire des dépenses inutiles. Sauf que depuis, ça a été remplacé par la tarification, la T2A, la tarification à l'activité, qui oblige là aussi à une politique inflationniste. Moi, je me souviens que j'avais des soignants qui me disaient, en fait, il faudrait penser une tarification à la pathologie. C'est-à-dire, on sait combien coûte une pathologie, on met les moyens pour cela, ça évite l'inflation. Ça n'a pas été fait. Dernier point, la question de l'organisation de l'hôpital. Qui dirige ? Et il me semble que pendant le Covid, l'une des respirations des soignants, c'est justement que c'est eux qui dirigeaient, qui savaient ce qu'ils devaient faire. Et on est revenu juste après à ce poids qui avait été amplifié en 2009 par la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, qui en fait a donné le pouvoir à l'administration dans les hôpitaux et pas du tout aux soignants. Donc dans cette espèce de continuum historique, est-ce qu'en fait on n'est pas allé dans de mauvaises directions, c'est-à-dire des directions ultra-gestionnaires, des directions qui ont amplifié la perte de sens du métier pour les soignants et qui en plus coûtent cher.
Cynthia Fleury, sur cette question du sens, je vous ai vu beaucoup opiner du chef.
Oui, parce que
c'est fondamental, ça, le sens que les soignants peuvent y trouver. Et en quoi c'est fondamental, plutôt?
C'est fondamental parce que les soignants, ils sont d'abord, comme tous ces métiers, ils sont constitués par ce qu'on appelle leur ethos. Voilà, et moi j'ai vu je ne sais combien de soignants, j'ai suivi, supervisé des équipes pendant la période Covid qui me disaient, écoutez, c'est très très dur, mais mon Dieu, on fait notre métier, et ça nous sauve. Donc il y avait une restauration totale de l'éthos du soignant. Donc ça c'était un premier point, par la gravité, mais aussi par la libération de l'administration. C'est-à-dire que c'est un moment où quand même les équipes ont récupéré du pouvoir d'agir, de l'agentivité, parce qu'en fait, devant le réel, si vous voulez, devant les incertitudes, les process, ça casse. Il faut savoir que l'hyper-rationalisation, ça marche très bien dans la gestion du connu. Mais dans la gestion de l'inconnu, c'est pas du tout au même endroit. Et donc, résultat, les humains reprennent la main avec leur inventivité, avec bien évidemment leur corporation, si vous voulez, leur corps, c'est-à-dire leur corps, ensemble, fraternité, comme on a ça dans l'armée, etc. Et ça, c'est fondamental.
Vous avez travaillé sur le burn-out des soignants.
C'était un des gros sujets, c'était une des grosses demandes du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, quand on a créé la chaire de philo, de dire, oui, les patients, mais on veut qu'il y ait une clinique institutionnelle. Donc une clinique institutionnelle, c'est-à-dire de dire on soigne les soignants.
J'allais poser la question, est-ce qu'un système peut tenir quand les soignants eux-mêmes sont malades ?
Non. La réponse est non. Non, et puis c'est normal en plus. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut un minimum de cohérence, c'est même indigne. Donc moi j'ai écrit la clinique de l'indignité en disant, écoutez, il faut à un moment donné qu'on sorte de cette idée que tiens, la fabrique collective de la dignité, elle se fait uniquement sur la production de l'indignité de certains.
Zaina Briet, vous avez dit tout à l'heure en commençant, vous avez connu les années SIDA en commençant infirmière, donc dans les années 1980. Est-ce que vous avez senti, vous, une perte de sens progressive du métier de soignant avec les réformes, avec peut-être une forme de mercantilisme arrivant à l'hôpital, marchandisation de la santé? Est-ce que vous avez senti progressivement s'éloigner le sens de votre travail?
Alors, je dois dire que au fil des années, il y a eu plusieurs réformes qui avaient plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a eu des réformes qualitatives. Prenons l'exemple de la lutte contre les infections nosocomiales. Il y a eu cela. Ensuite, il y a eu une réforme qui consistait à donner un sens économique aux soins et au coût du soin. Donc, et à acculturer l'ensemble des acteurs de l'hôpital, soignants, non soignants, à ce que le soin, je rappelle quand même que c'est des deniers publics, c'est à la fois, et que ça avait un coût. Donc, connaître la valeur de cela. Ensuite, mais j'y viens. Ensuite, effectivement, il y a une ultra-gestion parce que nous avons eu une politique qui nous a conduit dans les années 2010 à restreindre nos moyens. Je rappelle qu'à l'hôpital, 70% du budget, ce sont les dépenses de personnel. Je rappelle aussi que à l'hôpital, entre 2010 et 2019, les effectifs ont évolué de 3,7%. Là où l'activité a augmenté de 19%. Un tel effort de productivité, jamais... Enfin, c'était énorme, incroyable.
Et les salaires ont plutôt baissé sur la même période.
Tout à fait. Alors, effectivement, fait face à la crise sanitaire, l'hôpital était déjà exsangue financièrement. Et il croulait aussi sous le poids d'une bureaucratie et le poids surtout d'injonctions contradictoires. Je voudrais surtout qu'on ne se trompe pas trop de débats, parce que ces injonctions contradictoires, quand on dit à la fois il faut maîtriser les dépenses de personnel et qu'en même temps on vous dit qu'il faut soigner tout le monde tout le temps, c'est pas possible. Donc il y a ces éléments-là. Et je crois que ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est de se dire l'hôpital public, pour avoir un hôpital public fort, il faut absolument que ces fondamentaux qui sont l'excellence, l'égalité d'accès aux soins à tous soit bien pris en compte et qu'on ne demande pas à l'hôpital de tout faire. Il ne doit pas tout faire. Donc je crois que c'est vraiment ce crescendo, cela. Et donc, si on cherche à regarder uniquement l'angle gouvernance, et je suis à l'aise pour le dire, vous l'avez dit, j'ai été infirmière, oui. Je suis devenue directrice d'hôpital. Donc vraiment...
Des deux côtés.
Oui, tout à fait. Mmh. Et aujourd'hui, c'est pas tant la question du sens. Elle s'est posée à tout le monde, la question du sens avec la crise sanitaire. C'est la question du non-sens. Où allons-nous ? Pourquoi faire et comment ?
Quand vous dites que l'hôpital public ne peut pas tout faire, aujourd'hui, je regardais les chiffres, c'est impressionnant. Il y a quasiment 50% des actes médicaux en France qui sont réalisés à l'hôpital public. Peut-être c'est aussi un des problèmes, une des clés de la situation actuelle. Gilles ?
Oui, je voudrais revenir sur ce paradoxe absolument vertigineux qu'a soulevé Nicolas Revel tout à l'heure. C'est-à-dire, il dit à la fois, on a mis objectivement beaucoup plus de moyens et il y a au moins autant de problèmes. Et notamment, c'est sur ce point-là que je voudrais vous interroger, sur le manque de personnel, à la fois de médecins et de personnel soignant, avec deux questions. Une sur le passé, parce que on a, d'une certaine manière, s'agissant des médecins, organisé cette pénurie avec le numerus clausus. Et ça a été fait de manière extrêmement continue, d'ailleurs, quelle que soit la couleur politique des gouvernements en place depuis de très nombreuses années. Donc, pourquoi y a-t-il eu cet aveuglement ? Est-ce que c'était l'idée que c'était l'offre qui créait la demande, et donc moins il y avait d'offres, moins il y aurait de demandes ? Est-ce que c'était les médecins eux-mêmes qui trouvaient que moins il y avait de médecins et mieux c'était pour eux ? Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une telle erreur collective continue ? Et puis la deuxième question sur le présent, cette idée de la remise en cause, de la recherche de modèles, de sens, en fait, elle est posée et elle a été accentuée par le Covid dans toute la société. Pourquoi est-ce que c'est à l'hôpital que les départs ou les changements ont été plus effectifs qu'ailleurs ?
Voilà, Gilles, vous posez plein de questions.
Nicolas Revel, Nicolas Revel qui dirige l'APHP aujourd'hui. Ouais.
Bon, sur le numerus clausus, c'est vrai qu'il y a eu, et ça remonte à, en fait, assez loin, je dirais que c'est à peu près une vingtaine d'années, à un moment donné, cette, effectivement, conviction que pour limiter la dépense d'assurance maladie, il fallait limiter le nombre de médecins, parce que le médecin coûte, parce qu'il prescrit. Voilà. Et donc, il y a eu, à un moment donné, un effondrement du numerus clausus, qui ensuite a connu, parce que, à un moment donné, on avait compris que c'était excessif, et donc il y a eu toute une trajectoire de remontée progressive et probablement insuffisante du nombre de médecins formés. Il faudrait d'ailleurs regarder, vous l'avez dit, jusqu'où cette remontée, qui n'était peut-être pas aussi rapide qu'il aurait fallu, ne s'explique pas aussi par le fait que les facultés de médecine nous ont dit « attention, faut veiller à la qualité, faut peut-être pas accueillir ». Moi, je n'y étais pas, mais je pense que si on devait faire un petit peu de spéologie historique, on verrait que ce serait probablement multifactoriel. On a aujourd'hui remonté le numerus clausus, et ça ne date pas là de toutes dernières années, à des niveaux de 8-9 000 médecins formés chaque année, sur des générations quand même de à peu près 700 000. Donc on est à peu près sur un médecin formé sur une génération, il y a à peu près 1% de médecins formés chaque année. Bon, c'est pas rien. Mais on a des, sur les prochaines années, on a des départs en retraite des générations du baby-boom qui fait qu'on va être encore pendant 10 ans dans une grande difficulté. Après, on aura beaucoup de médecins. Ce sera intéressant de voir comment on l'anticipe. Bon.
J'ai presque entendu trop dans votre voix.
Non, beaucoup. Et après, parce que ça serait intéressant d'ailleurs de voir comment ensuite derrière, je pense qu'il y aura des besoins de santé. Il y aura aussi par ailleurs une réflexion à avoir sur la place des médecins, les délégations de compétences. Enfin, ce sont des sujets compliqués, mais on se reverra dans 10 ans ou dans 5 ans pour se poser ces questions-là. Après, la perte de sens, je pense qu'elle s'explique un peu par ce qu'on a dit. Il y a eu ce moment très fort du Covid. Vous avez dit c'est comme ça que l'hôpital devrait fonctionner dans un monde idéal. Il faut pas perdre de vue que pendant ces quelques semaines du Covid, il n'y avait que le Covid. Tout l'hôpital s'est concentré sur un seul sujet. Un hôpital, en temps normal, il n'est pas sur un seul sujet. Il doit traiter de toutes les spécialités, toutes les pathologies. Il a 200 métiers et c'est en fait en réalité l'hôpital une des organisations les plus complexes au monde à faire fonctionner. Donc ne pensons pas non plus qu'il suffit de donner les clés au chef de service et que tout va être dans un monde meilleur. Alors le sens, il s'est perdu autour d'une notion simple, c'est le fait qu'on n'a plus le temps à l'hôpital. Ce qui est aujourd'hui la vraie souffrance La vraie aspiration, c'est de retrouver du temps. De retrouver du temps pour bien soigner, de retrouver du temps pour du travail en équipe. On a un déficit de dialogue dans nos organisations. On a un déficit de cohésion d'équipe. Et puis, ce qui fait que les médecins, les paramédicaux, je veux dire, se projettent dans l'avenir, c'est aussi d'avoir du temps pour développer des projets. J'ai parlé de la recherche. C'est évidemment le sujet des CHU, mais ne serait-ce que de pouvoir, on en parlera, l'a indiqué, de pouvoir aussi se préoccuper de la prise en charge des patients, y compris qu'on suit parce qu'ils ont des pathologies chroniques, ils ont un diabète, ils ont une maladie cardiovasculaire, de pouvoir aussi se dire comment on prend mieux en charge nos patients, même en dehors de leur temps d'hospitalisation, dans un suivi au long cours, parce qu'on y viendra peut-être, je pense que c'est pour le système de santé, l'enjeu clé des prochaines années.
L'amont et l'aval, l'hôpital n'est pas, n'est pas une île déserte. Il y a quelque chose avant, quelque chose après. Mais ça, on y reviendra dans la deuxième partie du grand face-à-face XXL après le journal de 13h. Cynthia Fleury, vous vouliez réagir. Et puis après, avec Caroline Brémaud, j'évoquerai la question du désert médical. Parce que c'est aussi, notamment quand on est à Laval, au milieu d'un désert médical, l'hôpital devient aussi peut-être le seul lieu où on peut se soigner.
Oui, je dirais trois choses. La première sur la panique devant les 10%, enfin devant le nombre croissant de médecins dans 10 ans. Oui. Rassurer tout le monde sur le fait qu'il y a quand même un changement de paradigme au niveau de la santé. C'est-à-dire que la santé, c'est en train de s'ouvrir considérablement avec la question de la prévention, la question du rétablissement, du recovery, avec la question de la chronicité. Donc en fait, les médecins, on en a besoin beaucoup plus avec la question, par exemple, de l'aidant malade qui s'occupe d'un aîné malade. Enfin, vous voyez, donc tout ça fait que, bien évidemment, les médecins, c'est essentiel. Deux, on a effectivement cette question de l'hospitalocentrisme. Donc malgré tout, elle continue de perdurer. Et trois, oui, la question du temps. Alors, c'est une grande question philosophique. Hein. On a fait des choses aussi sur la question du temps. Mais c'est vrai que ça, on parlait de la tarification à l'activité. On a considéré que le soin était hyper divisible. Bon, le problème, c'est qu'il y a aussi une indivisibilité du soin, et cette indivisibilité du soin qui fait que, d'une certaine manière, il y a du transfert, ça marche, le colloque singulier se fait, etc., ça demande du temps.
Indivisible, et parfois le médecin invisible. Est-ce que non, mais au-delà du jeu de mots, on évoquait le temps. Oui. Vous avez commencé en disant c'est important pour moi, c'est presque une vocation pour moi, je suis là pour les soignants, pour les patients, pardon. Est-ce que c'est un drame pour vous de ne pas avoir suffisamment de temps pour être avec eux?
Il y a des fois, il y a des choix à faire, parce que moi, ma ligne de conduite, c'est que le meilleur médicament, c'est l'humain. Et donc, à partir du moment où c'est comme ça qu'on pense la médecine, on voit les choses sous un autre prisme, on aborde les gens différemment. Et des fois, en peu de temps, et c'est ça, c'est notre caractéristique en tant qu'urgentiste, c'est qu'on a peu de temps pour prendre en charge, mais avec un regard, des mots bien choisis, une main posée sur l'épaule, on peut créer un lien, un colloque singulier en peu de temps. Mais il faut être sincère dans la démarche et il faut emmener la famille du patient ou le patient avec nous dans cette dimension très spécifique, ce lien étroit qui est entre nous, de dire tu es important pour moi et je vais tout donner pour te soigner. Et ça, c'est quelque chose, quand on est en surcharge mentale, qu'on n'arrive pas bien à faire.
On disait il y a un instant, on manque de médecins, on n'en forme pas assez, et on évoquait surtout le manque de médecins à l'hôpital. Mais si on parle de l'amont et de l'aval, c'est aussi, et l'aval, sans jeu de mots, c'est aussi là où vous travaillez, aux urgences de l'aval. On est en Mayenne, dans un désert médical. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous voyez arriver des patients qui n'ont pas leur place à l'hôpital et qui viennent parce qu'il n'y a pas d'autres soignants?
Tout à fait. En fait, on vient jamais à l'hôpital par plaisir, on vient parce qu'on a une détresse qui est réelle ou ressentie. Et quand on nous demande de dire aux patients, retournez voir votre médecin traitant, alors qu'on sait que il y a 10% des patients qui n'en ont pas, c'est de l'hypocrisie organisée. Donc moi, je veux bien à l'accueil des urgences dire votre situation ne relève pas d'une prise en charge aux urgences, mais c'est quand les patients vous disent j'ai pas de médecin traitant, il y a des choses qui sont organisées dans mon département pour y pallier, mais c'est compliqué. Et puis quand on n'a pas de médecin, on n'a personne aussi pour nous expliquer ce que c'est que d'être malade, la prévention et l'éducation à la santé, c'est primordial pour un bon fonctionnement.
Merci, on va évoquer évidemment la question des soignants et des patients. Les patients, on les oublie pas, on reste ensemble pour ce grand face-à-face XXL sur l'hôpital public jusqu'à 14h. On se retrouve après le journal. Merci Éric Delvaux.
Le grand face-à-face XXL, Thomas Negaroff sur France Inter.
Allez, deuxième partie du grand face-à-face XXL consacré à l'état de notre hôpital public. Est-ce un grand corps malade? On s'interroge avec nos invités que je vous présente à nouveau. Zaïna Briet, vous êtes déléguée générale de la Fédération hospitalière de France qui fête ses 100 ans. Bon anniversaire à la Fédération qui regroupe 1000 hôpitaux publics de France. À vos côtés, un de vos confrères, Nicolas Revel. Je rappelle que vous êtes à la tête du plus grand CHU d'Europe, l'APHP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris. Caroline Brémaud est restée à nos côtés, bien sûr, urgentiste toujours à Laval. Vous avez dirigé le service des urgences de cet hôpital avant d'avoir été démis de vos fonctions pour avoir critiqué le manque de moyens dans l'hôpital en France. Et puis Cynthia Fleury est avec nous toujours, psychanalyste, philosophe, qui a travaillé évidemment beaucoup sur la question du soin, du care. On va évoquer tous ensemble la question des patients. L'hôpital public, est-ce aujourd'hui devenu un cauchemar, voire un danger pour les patients? À écouter certaines informations, on pourrait se demander.
18h17, horrible maman, horrible. Je sais plus quoi faire, j'ai tellement mal et je me sens tellement faible, la cage thoracique est tellement douloureuse, ils ne savent pas quand il y aura un médecin de dispo, je sais plus quoi faire.
À l'extérieur, ses parents n'ont pas la permission d'entrer pour le voir. Un médecin parle d'une indigestion. Et puis il y a un témoin qui a tout vu et tout entendu de ce qui s'est passé ce soir-là. Damien était dans le brancard, juste en face de celui de Lucas.
Il faut imaginer Lucas en chien de fusil sur son brancard, complètement plié en deux. Qui même émet des petits gémissements et tout ça. Et au fur et à mesure que le temps avance, je comprends que c'est pas une indigestion. Il a été abandonné dans une première phase où il ne se passe rien. Il ne se passe rien, il voit une fois le médecin, et puis c'est tout, quoi. Et oui, là, on se dit, en fait, ils l'ont laissé mourir, quoi.
Le drame de Lucas, jeune homme de 25 ans, mort début octobre 2023, après avoir passé 8 heures sur un brancard aux urgences de l'hôpital d'hier dans le Var. Sa famille a porté plainte pour homicide involontaire. Est-ce qu'on est en danger à l'hôpital, Caroline Brémaud, aujourd'hui?
C'est compliqué l'accès aux soins. On ne travaille pas dans des conditions qui sont favorables pour prendre sereinement en charge les patients et on peut passer à côté d'une urgence vitale. Vous l'avez bien expliqué, c'est l'amont et l'aval de l'hôpital qui est en difficulté. Et donc à chaque maillon de la chaîne du système de santé, on est défaillant. Et quand on arrive pour prendre sa garde aux urgences et qu'on a entre 15 et 18 patients qu'on nous transmet alors qu'ils devraient être hospitalisés dans les étages de l'hôpital mais qu'ils ne le sont pas faute de lit, et bien forcément le médecin n'est pas disponible suffisamment pour prendre en charge les nouveaux patients qui arrivent. Donc on peut avoir une mise en danger des patients, évidemment.
Nicolas Revel, quand on dirige la PHP, c'est une obsession de chaque instant d'éviter ce genre de drame, j'imagine. Comment on travaille là-dessus?
Bon, d'abord, on voit bien qu'aujourd'hui, les drames, il y en a par définition à l'hôpital, il y en a beaucoup, souvent, dans les services d'urgence, parce que c'est quand même là qu'arrivent les malades, dans des conditions où les prises en charge sont rendues difficiles par le fait que, au-delà d'avoir du monde dans les services d'urgence, on a souvent une vraie difficulté à pouvoir hospitaliser rapidement les personnes qui doivent l'être, parce qu'on a, on le disait tout à l'heure, subi des pertes d'effectifs et des pertes de lits. Donc ça, c'est une réalité, et l'objectif de toutes les communautés hospitalières de France, c'est de pouvoir retrouver de l'attractivité, rouvrir des lits et redresser le fonctionnement général. Une fois que j'ai dit ça, quand même, il y a ces drames incontestables et terrifiants, terrifiants. Ne disons pas non plus que tous les patients qui viennent à l'hôpital aujourd'hui vivent un cauchemar. Voilà. Je pense que tous les jours, à l'hôpital, on soigne, et je pense dans de très bonnes, d'excellentes conditions, des dizaines, des centaines, des millions de patients. Et quand on est directeur de la PHP, bon, on reçoit beaucoup de témoignages. Alors parfois, effectivement, on nous dit des trucs où on se dit, tiens, il va falloir qu'on regarde parce que c'était pas top. Mais il y a quand même, dans l'immense majorité, quand même, des professionnels, médecins, infirmiers, qui s'occupent magnifiquement des patients et des patients qui ont le sentiment d'avoir été quand même extraordinairement soignés de choses graves et dans de très bonnes conditions. Je me permets juste quand même de le remettre.
Bien sûr, vous avez bien raison de le faire. Zaïna Briet, vous vouliez préciser?
Oui, je peux qu'appuyer cela. D'abord dire que inévitablement, c'est terrible, c'est toujours un drame pour la famille et ceux qui le vivent. Mais combien de vies sont sauvées à l'hôpital? Je rappelle juste que 89% des urgences sont prises en charge à l'hôpital public. Et que nous avons doublé le nombre de passages aux urgences publiques. Alors, c'est vrai que c'est dramatique et difficile, mais on pourrait se dire comment l'hôpital continue à sauver autant de vies? Eh bien, comment? Parce que, effectivement, c'est un lieu très sécure. Et moi, j'ai aucun doute, s'il m'arrive un accident et que le SAMU m'oriente vers un hôpital public, ben, je serais extrêmement rassurée.
Natacha Polony.
Pour rentrer un peu plus concrètement dans les problèmes, on a évoqué les problèmes en amont et en aval. En amont, c'est en effet la question des déserts médicaux, donc le manque de médecins dans certains endroits, et qui remonte à des politiques, on l'a dit, à 30 ans même, puisque c'est au départ avec les politiques de gestion des dépenses de santé par Alain Juppé, il y a eu Martine Aubry, etc. Mais derrière, il y a la question du rôle des médecins libéraux. En 2003, Jean-François Mattei supprime l'obligation de garde des médecins libéraux. Alors, le lobbying des médecins libéraux a sans doute été très efficace, mais est-ce qu'il y a un moyen de revenir dessus ? Ensuite, comment on organise les maisons de soins actuellement ? Il y a des applications qui permettent d'orienter les patients vers des maisons de soins. Certains ont peur d'une forme de privatisation des systèmes. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur ? Est-ce que le dispositif du SAS qui a été mis en place évite l'engorgement des urgences ? Visiblement, ce qu'on appelle la bobologie a baissé de 15 à 20% dans l'arrivée aux urgences. Mais est-ce qu'on risque pas d'atteindre un plafond et après ? Quid. Et en aval, je me souviens, quand je travaillais sur ces questions-là, la question qui revenait était toujours celle du manque de lits d'aval. C'est-à-dire qu'il y avait des lits d'aigus, il n'y avait pas assez de lits d'aval, donc des patients qui auraient dû être dans des maisons de soins ou des endroits pour du long terme étaient occupés les lits d'aigus, ce qui fait que les urgences ne pouvaient pas orienter dans les services. Là aussi, comment règle-t-on ce problème-là ? L'ambulatoire a sans doute amélioré les choses, mais vous évoquiez tout à l'heure le suivi en ambulatoire, un suivi correct. Comment on le met en place ? Voilà, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais ce sont des problématiques extrêmement concrètes, parce qu'en fait, je crois que ce sont tous ces points-là qui doivent être réglés.
Une question qui renvoie aussi au travail philosophique et humaniste de Cynthia Fleury, quand elle déclare, et vous êtes en face de moi, donc quand vous déclarez « sans humanisme, soigner devient une simple réparation », on est un peu dans ces questions-là. On va y revenir après, mais parole d'abord aux soignants. Caroline Brémaud, peut-être ? Urgentiste à Laval.
Dans mon département, il y a une permanence des soins qui est organisée. 95% des médecins généralistes assurent la permanence des soins depuis toujours. C'est même ce qui m'a fait venir en Mayenne, parce que je ne suis pas mayennaise d'origine. Et pourtant, c'est compliqué aux urgences. Quand on parle de la permanence des soins des libéraux, on a tendance à penser seulement aux médecins généralistes, aux médecins traitants. Et en fait, nous, aux urgences, c'est pas cette problématique-là qu'on rencontre, parce que c'est plutôt bien organisé. Là où on est en difficulté, c'est pour certaines spécialités, où il n'y a pas de continuité des soins. Par exemple, en oncologie, c'est assuré par la clinique privée. Et en fait, il n'y a pas du tout de médecin de garde la nuit et le week-end. Et ça va être un petit peu brut, ce que je vais dire, mais on assure le service après-vente à l'hôpital public de certaines cliniques. Et c'est ça, en fait, nous, ça nous met en difficulté, parce qu'on n'a pas le dossier des patients, donc on a du mal à bien les soigner.
Pour qu'on comprenne bien ce que vous dites, c'est que vous avez des patients en oncologie dans une clinique privée qui ont un problème grave un week-end ou la nuit.
Oui.
Ils arrivent chez vous,
oui.
Vous ne savez pas leurs antécédents médicaux et vous devez les prendre en charge.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Exactement. Alors des fois, ils arrivent avec leur dossier, mais des fois pas. Et on n'a pas non plus les directives. Est-ce qu'on est dans du palliatif ? On est dans l'actif ? Est-ce qu'on va jusqu'à la réanimation ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, ça nous pose des problèmes. Et éthiquement aussi, c'est compliqué de dire est-ce que le plus important pour nous, c'est de prodiguer le juste soin. Et donc, il faut avoir des patients qui sont en capacité de donner leur désir de soins, surtout pour la pathologie cancéreuse. Et donc, des fois, c'est vraiment extrêmement compliqué.
Mais comme on parle des soignants, là, j'aimerais qu'on y reste un peu. Est-ce que ça veut dire que les soignants sont suffisamment informés de tout ça ?
Les patients.
Oui.
J'ai dit soignants ?
Oui.
Merci. Pour les patients ?
Non, je pense que les patients, ils savent pas bien, en fait. Ils ont déjà du mal à comprendre complètement bien leur pathologie, ce qui leur arrive. Ils ont confiance dans le médecin qui les suit. Et puis, en fait, de toute façon, on est à l'hôpital. L'hôpital assure 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est le dernier recours. On est celui qui sauve. Donc, quand ça va pas, on y vient. Et ils s'imaginent pas tout ce que ça engendre derrière. Il y a beaucoup de défauts de communication sur le fonctionnement du système de santé en France, et ça, c'est une vraie problématique d'éducation à la santé et d'éducation au fonctionnement du système de santé.
C'est vrai qu'à l'école, on n'enseigne pas vraiment le système de santé, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne, en tout cas dans son détail. Gilles Finkelstein, vous voulez prendre la parole.
Oui, Nicolas Revel disait tout à l'heure qu'il y avait une aspiration des personnels soignants à retrouver du temps, et là, c'est pas un hasard, on parle de l'urgence. Je me souviens, j'ai écrit il y a 13 ans un livre qui s'appelait « La dictature de l'urgence » dans lequel j'avais commencé presque par une enquête pour voir à quel point l'urgence s'était insinuée dans l'ensemble des aspects de notre vie, de la vie au travail, de la vie de l'entreprise, du monde de la finance, de la vie publique et de l'ensemble des aspects de notre vie personnelle. La manière dont on se nourrit, la manière dont on s'habille, la manière dont on s'informe et, j'avais été frappé à l'époque, la manière dont on se soigne et sur les 20 dernières années, donc tout ça remonte 20 ans plus 10 ans, l'explosion du nombre d'entrées aux urgences annuelles. Comment un système peut-il survivre à cette telle explosion et quelle en est la hiérarchie des causes? Parce que est-ce que c'est le système de santé dans son ensemble? Donc ce qu'il y a, c'est l'amont. Est-ce que ce sont les patients qui tous ont le sentiment que leur problème est urgent? Ce que vous avez dit d'une phrase, leur problème réel ou ressenti, est-ce que c'est l'évolution des pathologies? Et en d'autres termes, est-ce qu'il est possible de réguler ce pour éviter de confronter les services d'urgence à une situation qui est peut-être ingérable?
Zaina Briet, comment on fait face à l'urgence de l'urgence de l'urgence de l'urgence?
Vous avez posé toutes les questions auxquelles il faut apporter des réponses, parce qu'effectivement, au-delà des crises, notre système de santé il est en profonde mutation. Et nous ne sommes pas les seuls. Hein. C'est, en Europe, on vit exactement la même chose du nord au sud. On a tous des sociétés vieillissantes, on a tous des maladies chroniques qui augmentent. Et puis, parallèlement à cela, on a une désorganisation de notre système de santé et du fonctionnement due à plusieurs raisons. Qui est à la fois, c'est pas normal...
Il y a un petit côté entonnoir quand même. Hein.
Tout à fait.
C'est qu'on a beaucoup de problèmes et de moins en moins de solutions.
On a des leviers, comme il y a de la même façon qu'il y a plusieurs difficultés, il y a aussi plusieurs leviers, mais vous nous avez dit qu'on en parlerait ensuite. mais en tout cas, juste pour vous dire que vous avez, pour répondre à Natacha, tout à fait sur les questions de Laval, et ça nous inquiète particulièrement en ce moment, parce qu'en ce moment, nous n'avons pas de triple épidémie. Grippe, bronchiolite, Covid. Et en revanche, nous avons des services d'urgence qui sont saturés par endroits. Et la difficulté qui est nouvelle aujourd'hui avec une acuité, elle existait déjà, mais avec une acuité particulière, c'est Laval. C'est-à-dire que, à la fois, des soins de réadaptation et de rééducation, des lits ont été fermés, hélas. D'autres qui existent, qui sont pas dans notre secteur, sélectionnent parfois les patients. Et donc, on a cette problématique d'orientation des patients. À cela s'ajoute les services sociaux et médico-sociaux, les EHPAD, et notamment les EHPAD publics, enfin tous les EHPAD sont un peu en crise, mais particulièrement aussi les EHPAD publics, du part de leur insuffisance de médicalisation, qui ne sont pas en mesure d'accueillir les personnes qui en auraient besoin. Donc il faut absolument qu'on puisse travailler et sur l'amont, et sur l'aval, et depuis 2019 quand même, il y a des leviers à la fois juridiques, et à la fois financiers, et à la fois organisationnels sur le territoire. Il faut juste s'y atteler.
Cynthia Fleury, je reviens à votre citation que je donnais tout à l'heure un peu vite. Sans humanisme, soigner devient une simple réparation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps de faire preuve d'humanisme à l'hôpital? Et quelles conséquences pour les soignés?
Plus difficilement, je pense qu'il faut quand même écouter les soignants qui, tous les jours, expliquent que c'est une des difficultés et que c'est leur expression « je n'arrive plus à faire mon métier dignement ». Donc il faut quand même l'entendre. Maintenant... Oui, Gilles disait tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi les individus, etc. Oui, je veux dire, on n'ira pas, peut-être, mais je suis pas si sûre qu'on ira, si vous voulez, à rebours dans cette modernité qui est la nôtre, de la culture de l'accélération, de la culture de l'urgence, je suis pas sûre de ça. Et donc, bien évidemment, que de la culture de la prise en considération de mon hyper-singularité, du fait aussi que, malgré tout, tous y sont, il y a un coût social de cette impossibilité à l'accélération. Donc, malgré tout, ce n'est pas que, si vous voulez, du narcissisme mal posé. C'est que les individus ont besoin d'être soignés pour retourner travailler, pour assumer des tâches, etc. Donc, c'est toute une économie. Donc, on a déjà ça. On a effectivement un système de soins qui, derrière, est défaillant. Donc, résultat, vous avez un hôpital qui est une espèce de voiture-balai de tout le système et qui fait un travail de régule, etc. Et moi, je ne crois pas. Les gens ne viennent pas à l'hôpital par choix. OK ? Donc, il faut l'entendre. Ils viennent par non-choix. Donc s'il faut revenir quand même, un patient ne veut pas être malade. Donc il y a quand même une dissymétrie importante de rappeler, le soignant il veut être soignant, le patient il veut pas être patient. Donc déjà rien que ça, nous sommes en dette par rapport à ça, non mais malgré tout, c'est important. Et puis par ailleurs, sur la question de la réparation, c'est toute la difficulté aussi, c'est que nous avons un paradigme qui a considéré que l'hôpital sauvait des vies. Mais sauver des vies, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans une approche très biologique, et tant mieux. c'est essentiel, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que vous avez des individus qui ne veulent pas simplement être réparés, ils veulent être rétablis. Donc le rétablissement, et là, c'est pas tout à fait la même chose. Je vous donne juste un exemple.
Allez-y.
Une femme a un cancer du sein. Bon, ben voilà, elle va être soignée. Mais donc elle est guérie. Elle est guérie, mais elle a plus de sein. Donc elle va tomber en dépression. Et puis pendant ces 2 ans de traitement, en fait, elle a perdu son travail, etc., etc. Donc tout ça fait que quand le jour où on lui dit « Vous êtes guérie, madame, au revoir », ben, elle se sent pas tout à fait rétablie. Et en fait, elle va rentrer dans un sas là où il y a pas beaucoup de monde. Et le problème, c'est qu'il nous faut demain véritablement affronter cette clinique du rétablissement, du recovery en bon français. Et ça, pour le coup, on est assez pauvre en France parce qu'on a une culture très biologique, très « je vous ai sauvé la vie, madame, ça suffit, quoi, dehors ». Ben, c'est pas, on n'en est plus là.
Je voudrais prolonger cela parce qu'on a publié cette semaine dans Marianne, en partenariat d'ailleurs avec France Inter, une étude, tout un dossier sur les conséquences du confinement sur la santé mentale et en particulier la santé mentale des jeunes.
Tout le monde fait « oh là là » sur le plateau.
Mais oui, parce que les chiffres sont quand même ahurissants. C'est-à-dire que chez les étudiants, les symptômes dépressifs, il y en avait 26% avant la pandémie, c'est 41% aujourd'hui. Et on a des pensées suicidaires de plus en plus tôt chez des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc les chiffres sont vraiment alarmants et tout ce qui ressort du dossier, c'est quand même un manque de moyens, notamment dans la psychiatrie, qui est un des parents pauvres du système de santé. Je vous vois au Pinet du Chef, mais quels sont les moyens d'agir aujourd'hui, sachant que les conséquences sont, rejoignent ce que disait Cynthia Fleury.
Nicolas Revel, patron de l'APHP.
Alors, on viendra peut-être après sur le sujet de la santé mentale, parce que ça fait partie effectivement des bombes sanitaires qui sont en train d'exploser dans le pays comme ailleurs. Mais en élargissant, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en fait, on a devant nous le vieillissement de la population. On a devant nous l'augmentation des pathologies chroniques et quelque part la santé mentale est une des pathologies qui pèse le plus et qui malheureusement est en train de gagner et fait des dégâts considérables. Et donc en fait la question fondamentale des prochaines années, c'est comment on arrive à augmenter notre capacité de soins, comment on arrive à attirer, fidéliser plus de médecins. On est beaucoup sur les médecins, mais aussi tous les métiers du soin. Parce qu'on a absolument besoin, on y viendra sur les sujets d'organisation, de faire en sorte que tout ça fonctionne mieux de manière plus collective et pluriprofessionnelle.
Non, je vous coupe juste parce que un chiffre qui va, à mon avis, surprendre les gens, les hôpitaux publics en France, c'est plus d'un million de personnes qui y travaillent. C'est équivalent à Carrefour, Auchan, La Poste et Peugeot réunis.
Non mais si,
parce que ça dit quand même pour des gens ce que la puissance de l'hôpital public et l'importance du nombre que vous évoquez, nombre cependant insuffisant. Allez-y.
Et dans le même temps, on a des professionnels, médecins et tous, qui aspirent à des conditions d'exercice différentes. C'est-à-dire que ça n'est plus du tout vrai qu'aujourd'hui, un médecin, comme ses aînés d'il y a 20-30 ans, va travailler, je ne sais pas quoi, 70 heures par semaine. Les jeunes médecins qui aujourd'hui s'installent ne sont pas du tout dans cet engagement. Et même quand on regarde ce qui se passe aussi bien à l'hôpital qu'en ville, on a des jeunes professionnels qui vont souhaiter pouvoir travailler à peu près 3 jours et demi à 4 jours par semaine et pas davantage. Bon. On a des infirmières à qui on a dit, il y a 10 ans, c'est une infirmière pour 14 malades. Et dans le même temps, des malades qui sont beaucoup plus lourds aujourd'hui qu'ils ne l'étaient parce que tous les patients légers, on les a basculés en ambulatoire. Donc il faut qu'on prenne en compte le fait que, à la fois, on va avoir besoin de soigner davantage de monde et avec un besoin de professionnels qui, eux-mêmes, ne souhaitent plus être dans une sorte de sacrifice personnel et professionnel. Donc on a quand même une équation globale qui est comment on attire beaucoup de soignants et de médecins dans les prochaines années et comment on leur propose des conditions d'exercice qui font qu'ils aient envie d'y rester parce qu'ils y trouvent à la fois des conditions, du sens, du temps. Et donc ça, c'est, je trouve, une question que, voilà, il faut que c'est la nation, la République, le pays affronte parce que c'est quelque chose qui est extrêmement lourd.
Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est compliqué, c'est que ça mêle le quantitatif et le qualitatif. Et là, ça devient plus compliqué. Quand c'est du quantitatif, on met des sous. Qualitatif, c'est plus compliqué. J'aimerais qu'on vienne à la grande promesse de l'hôpital public dans les années 1960. On ouvre la boîte à archives. On est en 1962. La Fondation Hospitalière de France fête sa semaine des hôpitaux. Écoutez les termes employés à l'époque pour évoquer la grande révolution que vous appelez de vos voeux aujourd'hui. On y pensait déjà dans les années 60.
Certains bâtiments devenus vétustes et quelquefois sordides créent pour les malades un abattement psychique qui peut être une véritable hantise pour les hospitalisés. Avec la Semaine nationale des hôpitaux, la Fédération hospitalière de France nous permet d'apprécier les efforts accomplis. Le malade ne doit plus être seulement un cas pour les statistiques, un client pour les hôpitaux, mais un hôte. En rompant avec la politique d'austérité et la carence du financement qui ont freiné l'évolution hospitalière, l'hôpital sera, est déjà, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un grand service public au service de votre santé.
C'est fou. C'est fou parce qu'on a l'impression que ça pourrait être aujourd'hui un grand service public. C'est pas un client, c'est un hôte. On parle de soins.
On rompre par... avec l'austérité.
On ouais, et puis rompre avec... Non mais, comme quoi, j'ai l'impression que ça bégaye un peu, non, Zaina Briet, vous qui êtes aujourd'hui à la tête de cette même Fédération Hospitalière de France.
En tout cas, je me réjouis qu'en 62, l'année où je naissais, quand même la Fédération Hospitalière de France avait déjà donné un cap.
Ah oui.
Mais en fait, c'est ça le sujet. C'est qu'on s'imagine... Alors, avec la crise sanitaire, on a découvert qu'il y avait un hôpital. Il a même été bouclier sanitaire de la nation. Et puis aujourd'hui, on a tendance à tourner la page de la santé parce qu'on se dit, bah, c'est vrai, on est tous responsables, il y a une situation économique nationale, ça va pas bien, etc. Sauf que l'hôpital et la santé, ça demande de se fixer des objectifs et c'est pas le temps court en matière de décision, le temps court de la décision politique. Donc peut-être qu'il faut enfin se dire que la santé... Il faut la prendre dans sa globalité et il faut penser notre système de santé ainsi. Et donc, effectivement, tant qu'on sera à courir après les urgences, c'est le tonneau des Danaïdes, hein, en gros. Hein. Dès qu'il y a une crise quelque part, on met des millions là, sans même traiter l'ensemble, sans même prendre en compte, et c'est ce que vous disiez très justement, la nécessité d'être rétabli. Eh bien, s'il y a besoin d'être rétabli, ça suppose tout un parcours à organiser, parcours de soins et parcours de vie. Donc, effectivement, il faut rompre avec cette logique et de penser que l'hôpital, ça n'a qu'un coût. Je rappelle, vous disiez le nombre de fonctionnaires. Je rappelle que quand même, 1 euro dépensé par un CHU, c'est 1,80 € réinjecté dans l'économie. Quand on fait des économies à l'hôpital, c'est aussi l'économie locale qu'on met en grande difficulté.
Ça veut dire quoi, c'est 1 euro pour 1,80 €?
C'est-à-dire que lorsque vous dépensez 1 euro à l'hôpital pour acheter quelque chose, vous faites travailler des fournisseurs, vous faites travailler, et donc c'est 1,80 € qui est réinjecté dans l'économie. Donc c'est-à-dire c'est producteur de richesse et producteur de valeur. Valeur humaine, nous le savions, et richesse économique aussi. Donc tant que politiquement, on n'aura pas intégré que l'hôpital, au même titre que la défense, enfin la santé, au même titre que la défense, nécessite des objectifs clairs en matière de santé publique et une vision, un cap, une loi. Nous nous poussons pour une loi de programmation, à l'instar de ce qui existe pour la défense. On se fixe des objectifs de santé publique. C'est pas forcément donner plus de moyens, mais c'est mieux distribuer. Tout à l'heure, docteur, vous évoquiez les patients qui vous sont adressés et vous faisiez un peu le service après-vente. Tous les acteurs de santé aujourd'hui sont financés directement ou indirectement par nos cotisations d'assurance maladie. Et à ce titre, nous avons des comptes à rendre et nous avons à mieux organiser les parcours pour ces patients.
On a commencé le grand face-à-face XXL à midi 20 après le duel de Gilles et Natacha sur la question de c'est quoi votre hôpital public à vous, votre histoire. Allez, on se projette dans l'avenir. C'est quoi votre vision d'un hôpital public idéal à l'horizon, disons, 2030? Faisons un rêve ensemble. Caroline Brémaud, quand on est urgentiste à Laval, qu'on est en colère sur le manque de moyens, ça ressemble à quoi un hôpital public de vos rêves?
L'hôpital public de mes rêves, c'est déjà un hôpital public avec des urgences ouvertes complètement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
C'est comment chez vous pour l'instant?
C'est régulé ou fermé, il y a un petit débat sur la sémantique, entre 6 et 20 nuits par mois en fonction des périodes. Ça veut dire qu'en nuit profonde, on ne prend en charge que les urgences vitales par le médecin du SMUR, parce qu'il n'y a plus de médecin aux urgences. Sur l'hôpital qui est à 30 km de chez moi, il y a des nuits où c'est fermé complètement, fermeture sèche et il n'y a plus non plus de SMUR. C'est-à-dire que on ne remplit plus la condition d'être à moins de 30 minutes d'un SMUR. C'est ce qu'on appelle les zones blanches. Donc moi déjà, mon rêve c'est d'avoir un accès aux soins pour tout le monde, partout en France, qui soit juste et qui soit continu. C'est d'arrêter de faire des semaines de 86 heures quand c'est les vacances scolaires pour que mes collègues prennent des vacances. C'est parce que moi j'en ai pris la semaine d'avant. Déjà, ça serait bien. Et puis, c'est de retrouver de la dignité pour mes patients, d'arrêter d'entendre quand je traverse le couloir. S'il vous plaît, vite, j'ai besoin d'un bassin et de pas pouvoir mettre les gens dans un endroit adapté pour qu'ils puissent juste uriner. C'est de remettre du sens, du respect pour eux et pour nous, en fait.
Et très 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 concrètement, dans votre service, il y a suffisamment de soignants, il en faudrait combien en plus?
Alors, si on est vraiment
dans une vision, là, allez-y.
Il y a un tiers de l'effectif médical, donc il nous manque 2/3 de médecins.
Waouh!
Oui, waouh! C'est ça. Donc, on a été contraints de fermer parce que l'ARS nous a demandé de travailler tout seul la nuit au lieu de deux. On l'a fait, on a essayé. Et on a vu qu'on se mettait en danger, nous-mêmes, et qu'on mettait en danger les patients. Donc, on a préféré restreindre l'accès par sécurité pour tout le monde. Mais ça, c'est indigne.
Je vous parle d'un rêve, vous parlez d'un réel souhaitable, d'un réel cauchemar aujourd'hui. Alors, on n'est pas dans un monde utopique en vous écoutant. Hein. On a l'impression, nous en tout cas, du point de vue du patient, je me trompe à chaque fois.
J'ai des rêves simples, je suis quelqu'un de simple.
Oui. Nicolas Ravel, même question. L'hôpital idéal à l'horizon 2030, vous y travaillez d'ailleurs.
Oui, je vais faire d'abord une réponse qui va être vraiment dans la continuité. D'abord, c'est de retrouver un fonctionnement normal. Alors à la PHP, on souffre moins sur le nombre de médecins parce que la PHP c'est Paris, ça reste un CHU plus attractif et donc il y a moins de difficultés pour attirer des compétences médicales. Et comme j'ai dit, en revanche, on a beaucoup perdu d'infirmières et donc on a beaucoup fermé de lits. Et donc à partir de là, c'est le dysfonctionnement. Si on prend les urgences, c'est des personnes âgées sur des lits brancards le matin qui attendent de pouvoir être hospitalisées dans un service de médecine et qui n'y arrivent pas. C'est des délais d'accès à une opération chirurgicale qui est pas ultra vitale mais qui est très importante et nécessaire, qui va prendre du temps, qui va être déprogrammé parce qu'il y a plus urgent. Et donc, c'est aujourd'hui un hôpital qui ne fonctionne pas de manière normale, correcte. Et encore, on est à Paris et on n'est pas à Laval. Donc, la première des priorités, c'est déjà de retrouver des forces médicales et soignantes, de pouvoir rouvrir des lits en médecine aiguë, en chirurgie, dans les soins de suite. Bref, c'est tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment la priorité des 3, 4, 5 prochaines années pour la paix, parce que ça va prendre du temps. Nous, il se trouve qu'on a mis en place beaucoup de choses et on a mis le coup de pied au fond de la piscine, on est en train de retrouver des effectifs supplémentaires. Bon, voilà. Mais ça va prendre du temps. Et après, il y a, dans 10 ans, je pense que le sujet collectif auquel on est affronté, on l'a un peu dit, c'est qu'on va avoir besoin de soigner beaucoup plus de patients, des patients qui vont être atteints de plusieurs pathologies à la fois, et tout ne pourra pas reposer sur « j'arrive aux urgences parce que j'ai mal été pris en charge, parce que j'ai pas pu voir mon médecin traitant ». Il va falloir qu'on invente collectivement une manière de mieux suivre tous ces patients âgés chroniques, et au-delà des temps d'hospitalisation. Et donc, c'est, je trouve, un formidable chantier, d'ailleurs, qu'il faut pouvoir faire avec des hôpitaux qui vont devoir jouer un rôle, parce qu'on a des services de spécialité qui sont, à mon avis, très importants, et travailler avec les médecins de ville, avec médecins et paramédicaux.
Ça se fait à budget constant, ça, ou il faut beaucoup plus de sous?
C'est intéressant. Je pense qu'il faut... On se dit, par exemple, pour mieux suivre quelqu'un qui est atteint d'un diabète, d'un cancer, d'une maladie cardiaque... Bah oui, en effet, si on veut pouvoir bien les suivre, pouvoir par exemple mettre en place de la télésurveillance, avoir des infirmières de parcours, de coordination qui puissent réagir, éviter la décompensation à un moment où on va devoir les réhospitaliser, ça nécessite un peu plus de moyens. Faire intervenir des psychologues, des diététiciens, toutes sortes de métiers qui aujourd'hui sont pas vraiment pris en compte dans les modes de financement de l'hôpital, ça nécessite un peu plus de moyens. Pas énormément de moyens, mais un peu plus de moyens. Et ce faisant, moi, ma conviction, c'est que quand on soigne mieux les gens,
la prévention,
et qu'on évite des réhospitalisations qui, elles, pour le coup, coûtent très cher, je ne sais pas si on économise, mais je pense qu'on ne dépense pas davantage et on a un bien meilleur résultat. Et donc, je pense que ce travail-là de conception de comment on investit intelligemment dans le système de santé pour pouvoir faire en sorte que les gens soient mieux soignés et que la dépense n'explose pas dans ce qui peut être le cas quand tout est mal organisé,
oui,
et que les gens arrivent malades, mal soignés, et qu'on les prend en charge avec eux. Je pense que c'est vraiment la priorité des priorités. Je ne sais pas si c'est une loi de programmation, mais c'est à coup sûr une stratégie qui doit embarquer tous les acteurs et qui se travaille dans la durée.
Zaina Brière.
Tout à fait. Alors, au-delà de ce que vient de dire Nicolas Ravel, je crois que l'avenir de l'hôpital doit être un hôpital fort dans ses fondamentaux, que sont l'excellence, l'égalité d'accès aux soins pour tous, les moyens de fonctionner, qu'ils continuent à innover, qu'ils soient à sa juste place, et puis qu'ils continuent à réaliser, je le disais en introduction, deux promesses républicaines. La première, c'est que tout le monde y a accès, sans aucune distinction, y compris à l'excellence. Et la deuxième, le rêve, c'est que par exemple, on peut rentrer, être aide-soignant à l'hôpital et devenir infirmier de bloc opératoire ou infirmier anesthésiste. Et ça, par les temps qui courent, c'est quand même bien de pouvoir se reprojeter dans l'avenir.
Cynthia Fleury, la vision idéalisée de l'hôpital en 2030.
Moi, je vais peut-être être un peu plus utopique.
Allez-y, on en a besoin.
Et sur le méta, mais juste avant, au GHU Paris, dans certains services de psychiatrie, c'est un tiers de postes vacants. Donc c'est exactement l'inverse, mais c'est
un
pas
tiers,
non
deux
plus.
Tiers, ouais.
Voilà,
enfin, ça reste des postes vacants.
Ça reste des postes vacants, ouais. et c'est Paris, hein, donc c'est pas non plus.
On imagine un collège ou une école primaire avec deux tiers d'enseignants qui manquent.
Voilà. C'est juste pas jouable. Alors nous devenons, en l'occurrence, on va fêter la chaire de philosophie, on va fêter les 10 ans. Je salue d'ailleurs, puisque la chaire de philosophie est née à la PHP, à l'Hôtel Dieu. J'étais la première titulaire de l'Hôtel Dieu. Donc ça c'est important. On devient, je vous le dis, c'est bête, mais nous. C'est quand même une coloration de, si j'ose dire, de l'idéal. On devient un GIS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un GIS? un groupement d'intérêts scientifiques qui s'appelle Générativité des Vulnérabilités. Donc, malgré tout, ça a son nom et ça compte parce qu'il va être porté par le GHU, par le CNAM, par Sorbonne Université. Il réunit l'université des patients et ça rentre avec le professeur Tourette-Turgis. Ça rentre dans notre stratégie, si vous voulez, de dire demain, oui, il faut des universités des patients dans les facs de médecine parce qu'il faut repenser tout le cursus aussi d'enseignement, de formation, etc. Il faut des chaires de philosophie à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Chaires de philosophie ou chaires des humanités médicales, vous l'appelez comme vous voulez. Mais il faut comprendre qu'il y a un coût socio-économique sanitaire délirant de l'absence d'un investissement sur les humanités médicales dans notre circuit demain. C'est ça qu'il faut comprendre. Que le soin est un investissement absolument déterminant et cesser de croire que c'est simplement une dépense. C'est bête, on le sait, mais on ne le fait pas. Et demain, c'est la refonte de la prévention, c'est la refonte du rétablissement, on l'a dit. Tout ça, ça se pense, ça se construit. C'est quand même d'autres manières de faire. Donc, si demain, on a des universités des patients, qu'on accompagne, qu'on fait grandir l'éducation thérapeutique, qu'on utilise les patients experts, tout ça, c'est essentiel hein, aujourd'hui dans des nouveaux parcours de soins, de l'oncologie, etc. Donc, on milite pour qui est des universités des patients, qui est des chaires de philosophie à l'hôpital et que tout simplement les humanités médicales, les humanités en santé reviennent de façon très forte.
Vous dites tous avec des mots différents et avec des regards différents que l'hôpital appartient à un système.
Exactement.
Et la notion de système, elle est je crois fondamentale pour comprendre la crise et la solution peut-être demain pour l'hôpital public. Gilles.
Oui, ce qui m'a frappé, c'est que on essaie de se projeter dans ce que serait l'hôpital public idéal, et ça fait écho à une enquête dont j'ai parlé ici, que la Fondation Jaurès a réalisée, qui est « Ça serait quoi la société idéale des Français ?» Et je veux dire en quoi ça fait écho. On avait commencé par une question ouverte à 10 000 Français dans nos panels électoraux, en disant « Si vous deviez décrire en quelques mots, quelques idées, quelques images, ce que serait cette société idéale, qu'est-ce que vous diriez ?» Et on a 600 pages de verbatim, absolument passionnant. Et il y a à la fois, il y avait un registre lexical avec un pôle négatif autour des violences et un pôle positif autour des mots dignité, respect, reconnaissance et sens. Et c'est incroyable de voir, c'est exactement les mêmes mots que vous avez utilisés. Et puis, il y avait une attitude psychologique qui était, ce qui serait bien, ça serait la France telle qu'elle est, mais sans quelque chose. Il y avait en moins. Vous m'enlevez quelque chose, vous éradiquez. Alors, on voulait pas éradiquer la même chose, mais et ça irait. Et là, vous êtes pas dans cette même attitude. Il faudrait un plus. Hein, il faudrait, Caroline Brémond, vous disiez, plus d'ouverture, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nicolas Revel, plus d'infirmières, plus de moyens. Zainab, vous disiez, plus d'innovation. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce travail de
plus
projection.
Plus de philosophie.
Plus de philosophie, plus d'humain. Ce travail de projection sur ce que peut être non seulement l'hôpital, mais le système de soins demain, qui est, je crois, un grand et un beau défi à réaliser collectivement.
Est-ce que je peux dire juste un point? Bien Parce sûr. Que je pense que c'est précisément lié. Pourquoi vous avez eu un panel qui dit la même chose, mais sans? Parce que, justement, ils ont un sentiment que les grands piliers école, soins, sont défaillants et n'arrivent plus à attraper l'immensité des enjeux, l'immensité du nombre, etc. Et donc, nous, au contraire, en remettant sur ce plus et en comprenant, viendra redonner à la société son envie, non pas de repli sur elle-même, ce qui n'est pas un bon point, mais au contraire de son ouverture.
Je vais être un peu plus terre à terre pour une question très précise à Nicolas Revel. On parlait de moins de manque, etc. Mais dans quelques mois, en France, il y aura plus de touristes, plus de sportifs. Il y a les Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on se prépare à la PHP pour ça? Et est-ce qu'on est prêt?
Alors oui, on se prépare et je pense qu'on est prêt. D'abord, on essaie de comprendre ce que va être le plus de touristes et de patients. Parce que au début, on nous a dit, vous allez voir, la population en Île-de-France va doubler. C'est plus compliqué que ça.
Elle va changer, en tout cas.
Donc on a fait un travail, en effet, parce que vous savez, souvent, au cœur, entre fin juillet et mi-août, nos professionnels prennent des vacances. Oui. Donc nous, on ferme des lits. Et donc on s'est dit, dans quel service, dans quelle spécialité, sur quel type de prise en charge, il faut qu'on soit... présent, avec un peu plus de professionnels, un peu plus de lits. Donc on a fait un travail hyper fin. On a identifié très précisément une centaine de services où il faudra qu'on soit au rendez-vous avec un peu plus de moyens. Et ça va mobiliser à peu près moins de 10% de nos professionnels.
Qui auront des primes ? Il y aura des primes ?
Alors oui, ce qu'on fait, en fait, quand on dit à un service, vous allez cette année, vous n'allez pas fonctionner cet été, ça ne va pas être un été normal, on va vous demander d'être un peu plus nombreux parce qu'il faut ouvrir un peu plus de lits. Et ce qu'on a mis en place comme prime, c'est le fait qu'un professionnel qui, du coup, va être présent pendant les Jeux, il va pas pouvoir prendre ses 3 semaines consécutives, parce que c'est ça la manière de prendre ses vacances à la paix, pendant soit juillet et août, entre juillet et août, lui, il a le droit, en effet, à une prime. Il perd pas ses jours, il pourra les prendre plus tard, mais il a le droit à une prime. Et donc, c'est ça qu'on a mis en place. Et ça va concerner 3 à 5% de nos professionnels. Donc, c'est ça le dispositif. C'est 3 à 5% de professionnels parce que on a fait ce travail assez fin de dire où seront les besoins. C'est pas la peine de mobiliser et de dire à mes 100 000 professionnels, tout le monde doit être présent au mois d'août parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Alors même qu'on sait qu'il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas présence. On a beaucoup en gériatrie, en centre de maladies rares, il n'y a pas de sujet. En revanche, en chirurgie viscérale, orthopédique, dans les services d'aval des urgences, on a besoin d'être un peu plus présent. Donc on a fait ce travail assez fin. Mmh. Les plannings sont faits.
Il y a beaucoup d'escaliers dans le métro parisien.
Mais on fera il y a aussi des touristes chaque année, donc là il y en aura plus. Et rassurez-vous, on sera soigné quand on tombera dans un escalier.
J'entends ça comme une spéciale dédicace.
Oui,
On n'est pas en train de mettre en cause. On n'est pas en train de mettre en cause la RATP. Vous avez dit, j'ai travaillé avec Jean Castex. Donc surtout pas qu'il s'imagine qu'on est en train de mettre en cause la qualité des escaliers. Mais Cynthia Fleury s'est pété la.
À un mot que vous avez employé, Thomas. Vous avez dit, en fait, ça, l'hôpital appartient à un système. Le chiffre sur le projet de loi finance de la sécurité sociale 2024, il y a 105,6 milliards pour les hôpitaux, c'est plus 3,1 milliards, en fait ça ne couvre pas l'inflation. Et la Fédération hospitalière de France dit qu'il manquerait en fait 2,2 milliards. Donc la question de savoir comment on fait pour penser ça comme un système, ça, je pense que pour répondre à l'idée de votre hôpital idéal, il faut réfléchir à la totalité des choses. Je prends l'exemple des infirmières de la PHP, on manque d'infirmières, mais il y a un des sujets qui explique ce manque d'infirmières, c'est le prix des loyers en Île-de-France, le fait que des infirmières qui ont des horaires de nuit doivent habiter dans des banlieues extrêmement éloignées, c'est dangereux, c'est fatigant, etc. Donc il faudrait penser le logement social en fonction des besoins des soignants, des infirmières notamment. De même, la question de l'aménagement du territoire. On a longtemps dit que la France avait un hôpital dans chaque sous-préfecture parce que chaque potentat local voulait son hôpital. Le problème, c'est que quand on les a fermés, ça a fait mourir des petites villes. Et puis c'est l'hôpital qui ferme, puis ensuite c'est le tribunal, puis ensuite c'est la préfecture. La sous-préfecture disparaît, etc. Et on voit les conséquences. Donc, et je termine sur une chose, c'est que c'est même l'ensemble du budget. Je parlais du budget de l'hôpital, mais quand on regarde sur 20 ans la répartition des dépenses sur 1 000 euros de prélèvement obligatoire, on voit que la part de l'éducation, de l'hôpital, a baissé en fait en pourcentage de ces dépenses. Pourquoi ? Parce que les dépenses sociales ont augmenté, c'est-à-dire les retraites, le chômage. Mais ça veut dire que la question, c'est aussi... Pendant 30 ans, on a pensé l'hôpital et le système de santé en se disant où est-ce qu'on gratte de l'argent pour avoir les budgets. La question, c'est comment on crée de la richesse pour avoir un hôpital, pour avoir des dépenses régaliennes, et l'hôpital en fait partie, qui sont suffisantes. Bref, oui, c'est, enfin, il me semble que, que c'est un système et qu'il y a énormément de choses dont il faudrait se soucier. Oui.
Comment replacer l'hôpital au cœur d'un vaste système ? Allez-y, le mot de la fin pour
vous. Oui, non, mais tout à fait. C'est d'ailleurs d'autant plus passionnant parce que ça fait bouger les lignes. Par exemple, à la PHP, ben, vous avez mené une grande politique en matière de logement, mais vous avez raison de le dire, dans un système où majorité de femmes exercent, c'est important de penser les transports, l'organisation, il y a des choses qui bougent, et effectivement, c'est cela. Donc c'est tout un écosystème, et des solutions existent, il faut juste pouvoir les mettre en place.
Et c'est pas facile. Merci à tous d'avoir participé à ce grand face-à-face XXL consacré à l'hôpital public, ce trésor national. Merci Gilles, merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à la réalisation. Aujourd'hui, Guillaume Roux était à la technique.